situer ma contribution ici. Donc, elle se centrera surtout sur les statistiques existantes en France sur les enfants migrants, avec une attention particulière portée aux statistiques relatives à l'entrée ou séjour des enfants des pays hors de l'Union européenne, ou ce qu'on dénomme aussi les pays tiers. Et donc, le choix de me concentrer un peu sur ce point se justifie parce que je trouve que ça illustre parfaitement différents points soulevés durant cette journée scientifique, à savoir le rôle des institutions, des politiques migratoires dans la production des catégorisations, dans la détermination de l'accès aux droits, mais aussi à travers la production des statistiques, un peu les connaissances et les méconnaissances qu'on va produire sur ce groupe de migrants. Et dernier point, même si ma présentation elle va porter sur les enfants, sur les mineurs, que je vais définir dans quelques instants, c'est vraiment important de tenir compte du fait que les problèmes dont on va parler, mais aussi les solutions apportées à des lacunes statistiques, ça s'inscrit dans un contexte plus général et qui concerne voilà, les migrants internationaux en général. Ceci étant dit, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations dans les dernières années, la majorité des organismes internationaux statistiques s'accordent pour dire que, malgré ces progrès, il reste encore des lacunes concernant certains groupes, et les migrants, les enfants, constituent vraiment l'un de ces groupes. Donc, sans vouloir faire de présentation trop technique, je vais juste présenter quelques concepts pour qu'on soit tous d'accord de quoi on est en train de parler. Donc, un migrant international, dans les statistiques et sur les migrations internationales, est défini comme une personne qui va changer son pays de résidence habituelle et qui va partir pour au moins 2-3 mois. Et plus souvent, on va faire référence à des migrants de longue durée, donc qui vont partir 12 mois ou plus. Dans la réalité, souvent, on n'a pas cette information sur la durée présumée ou la durée réelle des gens. Donc, on va utiliser d'autres informations, par exemple, leur lieu de naissance ou leur nationalité. Les enfants, toujours dans les instruments internationaux, souvent sont définis par leur âge, par le fait qu'ils sont mineurs. Donc, même si on sait que cet âge peut varier, et ça peut aussi, selon les pays, mais aussi les domaines d'activité, l'âge de la majorité, généralement, on utilise ce seuil de 18 ans. Et puis, dans les recommandations statistiques, par exemple, de l'ONU sur l'immigration, mais il n'y a pas vraiment de définition de l'enfant migrant. On les voit apparaître comme une catégorie des dépendants d'un migrant principal. Donc, c'est vraiment là... C'est une première manière d'identifier, de définir ce groupe, c'est par leur situation familiale, le lien avec une autre personne, par exemple un parent qui réside déjà en France, et avec tout ce que ça va poser de questions sur la détermination de ce lien. Mais en réalité, ce qu'on va faire, c'est que là aussi, dans les statistiques, souvent on va utiliser l'âge, par exemple 18, 15 ans, 18 ans, moins de 20 ans. Un dernier point, quand on parle des enfants migrants, c'est de bien faire la distinction entre les indicateurs de stock et de flux. Donc, par exemple, depuis plusieurs années, l'ONU compile des données sur le nombre de migrants, donc les personnes qui vivent dans un pays autre que son pays de naissance. Et l'UNICEF fait beaucoup de communication sur les enfants migrants. Donc, ça va être des migrants qui ont moins de 18 ans à ce moment-là. Et donc, par exemple, ça, c'est une carte qui montre que dans les pays du Sud, il y a beaucoup plus de migrants jeunes qui ont moins de 18 ans. Et par exemple, en Europe, on voit qu'il y en a moins. On est autour de 8-12%. En Amérique centrale aussi, il y a beaucoup plus de jeunes, etc., etc. Or, cet indicateur, même s'il nous apprend des choses, il sous-estime vraiment la proportion des enfants, des mineurs dans les migrations internationales, parce que quelqu'un qui a 10-12 ans au moment de la migration, à un moment donné, il va devenir adulte et il ne sera plus du tout dans ces statistiques. Alors que plein de ses expériences restent marquées par le fait qu'il est venu quand il était enfant. Et donc, dans certaines publications, mais là, ça va être plutôt des publications académiques, on va distinguer ce groupe. Donc, c'est des personnes qui sont peut-être majeures, ils sont déjà sur le marché de l'emploi, dans les universités, etc., etc. Mais ils sont venus quand ils étaient encore enfants, ils avaient moins de 12 ans, moins de 18 ans, et on va parler des générations 1 et demi, non pas des secondes générations qui sont nées dans le pays de destination, mais des générations 1 et demi. Mais voilà, dans les statistiques officielles, on ne fait pas ça. Et donc, il est beaucoup plus intéressant quand on parle des migrants de s'intéresser aux indicateurs de flux, donc de regarder parmi les personnes qui entrent dans un pays à un moment donné, mais quelle est leur distribution par âge, quels sont leurs profils, etc. Et donc ici, le problème avec voilà, les données des flux, ils sont disponibles pour un nombre plus restreint des pays parce qu'ils sont plus difficiles à produire. Mais par exemple, ici, j'ai fait un indicateur très similaire, mais là, en regardant la distribution par âge des personnes qui entrent dans les différents pays de l'Union européenne en 2018. Et donc, vous voyez, les proportions sont beaucoup plus élevées. Donc, par exemple, en France, on voit que presque un quart des personnes de nationalité étrangère qui rentrent en 2018, ben, ils sont des mineurs. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup d'immigrants aujourd'hui qui sont mineurs. Donc, ces concepts de base étant posés, on va passer maintenant à la situation en France et essayer de parler, voilà, de répondre à quelques questions un peu simples. Ben, combien de personnes, combien d'enfants, de mineurs migrent en France tous les ans? D'où viennent-ils? S'ils viennent seuls en famille? Et quel est un peu leur statut administratif? Donc, depuis la réforme du recensement en 2004, l'INSEE estime les entrées et les sorties du territoire national tous les ans et les principales caractéristiques des individus, sexe, âge, nationalité, pays de naissance. C'est d'ailleurs ces données qui sont ensuite transmises à Eurostat et que j'ai utilisées préalablement parce que ce grand changement, quand même, il s'inscrit aussi voilà, dans le cadre de nouvelles réglementations sur les statistiques sur l'immigration en Europe. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit que les entrées de mineurs en France, là, c'est toute nationalité confondue, ça a augmenté dans les 10 dernières années. Et aujourd'hui, à peu près 100 000 personnes ce sont des mineurs. Et on avait vu, c'est à peu près un quart du total. Mais voilà, ces données, elles ne permettent pas du tout de savoir ben, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est quelque chose de récent ou pas, parce qu'il n'y a pas de données avant 2008. On n'avait pas de données produites sur les entrées et les sorties. Et voilà. Pour répondre, vous rappelez, il y avait une deuxième question sur les pays de départ, donc les pays de naissance. Sur cette variable, il y a des données seulement depuis 2015, donc je ne vais pas en parler et je vais tout de suite passer à la troisième sur la nationalité. Et donc là, ce total que je vous ai présenté juste avant, on peut distinguer trois grands groupes. Et donc on voit que parmi ce total, il y a un numéro stable de mineurs qui sont de ressortissants français qui entrent une année donnée en France. On voit, il y a un autre groupe, ce sont les nationaux des autres pays de l'Union européenne. Et leur nombre a vraiment a augmenté juste après la crise, avec notamment l'arrivée de beaucoup de personnes, de familles des pays de l'Europe du Sud. Et le troisième groupe, ce sont les nationaux des pays tiers. Et on voit que c'est surtout leur nombre qui a augmenté dans les 10 dernières années. Et on est à peu près à 40 000 entrée de mineurs par an. Par contre, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire avec les données disponibles parce qu'on n'a pas de nationalité détaillée. Certains États membres font la distinction par nationalité, par pays de naissance, mais ce n'est pas le cas de la France. On peut parler pourquoi c'est le cas. Pareil, on n'a pas d'autres informations sur leur situation familiale, sur leur statut à partir de ces données, qui sont établis à partir du recensement, rappelez-vous. Et donc, si on veut savoir un peu plus sur ces migrations, l'évolution dans le temps, la situation familiale, ben on est obligé de se tourner un peu vers d'autres sources. Et donc, les enfants, de la même manière que les adultes, voire plus, ils sont en contact avec de nombreuses administrations tout au long de leur parcours migratoire. Donc voilà, c'est leur âge, on va dire à peu près jusqu'à 18 ans, ça va être la période qui nous intéresse. Et donc, on peut distinguer un peu deux grands groupes d'administration. C'est les administrations qui gèrent spécifiquement tout ce qui est lié à l'entrée ou au séjour, et puis tous les autres domaines. Et donc, dans le premier cas, les enfants, surtout s'ils viennent des pays tiers et ils veulent rester en France pour plus de 3 mois, ben, ils vont être obligés de faire une demande de visa. Avec leur famille, certains vont faire une demande d'asile, plus tard une demande de titre de séjour, etc., etc. Mais aussi, ils vont être en contact avec plein d'autres administrations, par exemple l'école. Il y a un dispositif spécifique pour les élèves, nouveaux élèves, et il va y avoir une présentation sur ça plus tard, donc je ne vais pas m'arrêter dessus. Et, mais aussi l'action sociale, la CAF, etc., etc. La question est de savoir, peut-on identifier notre groupe d'intérêt, donc des mineurs de nationalité étrangère ou nés à l'étranger, dans ces données ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup de fois, ça ne sera pas possible. Il faut rappeler que les administrations ne collectent pas les données à des fins statistiques, mais à des fins de gestion. Donc uniquement des informations qui sont nécessaires pour mettre en place une politique, pour permettre l'accès à un droit, etc. Donc parfois la nationalité, savoir connaître la nationalité de la personne qu'ils ont en face, c'est nécessaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois ça peut être une autre information qui est pertinente, par exemple la langue parlée dans la famille. Donc pour résumer, beaucoup de fois on ne peut pas identifier notre groupe. Et donc, ce que je vais faire dans la suite de cette présentation, c'est vraiment se concentrer sur les statistiques relatives à l'entrée et au séjour. Et ils ont l'avantage, voilà, que ça fait écho à d'autres présentations aujourd'hui. Et puis, contrairement aux statistiques basées sur le nouveau recensement, les statistiques administratives vont vraiment nous permettre de remonter dans le temps. Et donc, ceci, ça va vraiment m'amener à parler uniquement de ce groupe, des ressortissants des pays tiers, parce que c'est le seul des trois groupes des migrants mineurs qui est concerné par ces régulations. Et donc, je vais ouvrir cette deuxième partie en présentant des statistiques sur la procédure de regroupement familial. C'est un peu la procédure la plus connue, la plus ancienne, et celle qui reste associée à la migration familiale. Et plein de publications qui analysent l'émigration vers la France dans les années 60, 70, 80, se basent sur ces statistiques. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que jusqu'à l'arrêt un peu de l'émigration de travail, qui ne s'est pas vraiment arrêté, mais on voit que c'est juste avant qu'on a le plus d'entrées d'enfants, plus de 40 000 enfants par an. Et puis, il y a eu des fluctuations, mais globalement, ça baisse. Et puis, la série s'arrête en 2004. Donc, si on devait faire des recherches, ce qui s'est passé un peu avec moi au début de ma thèse, il n'y avait plus rien. Et pourquoi ça s'est arrivé ? En fait, ces données, elles ont été publiées tous les ans par l'organisme en charge de la gestion des migrations vers la France, donc des travailleurs, mais aussi des familles. Et donc, c'était d'abord l'ONI, puis l'OMI. Et puis, au moment de la restructuration en 2004, avec la création d'ANAEM, ils ont arrêté de publier ces annuaires. Une nouvelle agence a vu le jour en 2009, OFI, qui recommence à publier des rapports d'activité, mais il y a beaucoup moins d'informations incluses sur cette procédure. Heureusement, j'ai pu être en contact avec le service des études qui donne accès à leurs statistiques et un peu construire cette série. Et donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que le nombre d'enfants admis dans la procédure de regroupement familial continue de baisser. Et aujourd'hui, on est autour de 5 000 enfants par an. Donc, pourquoi cette baisse assez importante ? Pendant très longtemps, on a vraiment parlé beaucoup de la transformation des flux migratoires vers la France et donc les travailleurs et les familles qui ont été un peu remplacés par des migrants plus jeunes, sans enfants, dont certains viennent pour fonder une union, une famille en France, ce qui expliquerait l'accroissement du nombre d'une autre catégorie de conjoints de Français. Et c'est vrai que les conjoints de Français, c'est un peu le groupe de migrants le plus important aujourd'hui. Même si c'est en partie vrai et il y a des transformations, des populations, des dynamiques démographiques à plus long terme qui peuvent expliquer ça. Dans les pays d'origine, par exemple, on va se marier plus tard, on va avoir moins d'enfants. Ça ne suffit pas comme explication. Et donc, pour comprendre cette baisse, il faut aussi s'intéresser un peu, regarder plus en détail le cadre législatif et cette procédure et les autres procédures qui régulent l'entrée et le séjour des enfants des pays tiers en France. Et donc, un autre facteur qui expliquerait ce changement, c'est tout simplement que, au fur et à mesure de la construction de l'UE, les ressortissants UE ne passent plus par cette procédure. Et donc, si on reconstruit cette même série, mais sans les ressortissants de l'UE, au début, ce sont surtout les Espagnols et les Portugais qui représentent les entrées dans les années 70 et 80. Donc, si on les enlève, on voit que les différences entre les volumes passés et futurs, ils ne sont pas si grands. Donc, on était avant autour de 20 000 enfants par an. Et encore au début des années 90, on était à 20 000 enfants. Et au début des années 2000, on était quand même à 15 000 enfants. Donc, c'est vraiment cette baisse très, très, très importante. C'est quelque chose de plus récent. Mais voilà, ce n'est pas la seule explication. Et donc, je vais m'intéresser à un autre indicateur, et c'est la proportion des personnes régularisées sur place parmi l'ensemble des bénéficiaires du regroupement familial. Et donc, vous voyez qu'au début des années, voilà, à la fin des années 60, on est autour de 80%. Donc, au début, presque toutes les familles qui viennent en France, elles vont venir, ça va être la famille ensemble qui va venir, et ensuite les hommes généralement vont être régularisés en tant que travailleurs, et les familles, donc les mères et les enfants, en tant que membres de famille. Or, depuis cette époque, donc après 1974, plusieurs textes vont limiter cette possibilité en obligeant de faire la demande de regroupement familial pour la famille qui est encore à l'étranger. Et donc, on voit que cette proportion de régularisés, elle va baisser, surtout à la fin, voilà, au milieu des années 80. Mais l'autre point important, c'est qu'on voit que dans les années 90 et jusqu'au milieu des années 2000, il y a vraiment une différence entre la proportion de conjoints régularisés sur place et celle des enfants. Autrement dit, il y avait quand même des exceptions faites, et je vais en parler un peu dans une minute, aux enfants. C'est-à-dire, même si parfois il y avait des enfants qui sont venus en dehors de la procédure, on pouvait faire des exceptions et les régulariser sur place. Ce n'était pas le cas des conjoints. Et donc, un autre indicateur qui nous permet de mieux comprendre les changements dans les profils des utilisateurs de cette procédure, c'est la proportion d'enfants seuls. Donc, ça veut dire que les enfants sont dans un dossier où il n'y a pas d'autres conjoints, mais il peut y avoir plusieurs enfants. Et donc, on voit qu'au début, donc dans les années 70, cette proportion, elle est très basse. Donc, les enfants viennent effectivement accompagnés du second conjoint, qui est la mère, presque toujours. Mais petit à petit, ça va augmenter, principalement sous l'effet de deux facteurs. Donc, le premier, c'est le regroupement fractionné. Donc, par exemple, vu qu'il y a des conditions plus strictes de logement, des ressources, etc., peut-être le sponsor en France, il ne peut pas faire venir toute la famille en même temps. Donc, il va faire venir certains membres de la famille, par exemple la mère et certains enfants, et un enfant sera regroupé a posteriori ou régularisé a posteriori. Et donc, ça expliquerait cette augmentation. Et donc, on voit qu'effectivement, cette même proportion d'enfants seuls parmi les enfants régularisés, elle est beaucoup plus élevée. Donc, ça veut dire que c'est vraiment les familles qui régularise a posteriori un enfant. Et un autre facteur qui pourrait expliquer cela, c'est le développement des familles monoparentales, où finalement, ce n'est plus toute la famille qui vient, mais c'est la mère qui a les enfants à charge, soit parce que c'est une mère seule, soit parce qu'elle est séparée, veuve, divorcée. Et donc voilà, quand ils vont faire venir le regroupement familial, ça va concerner uniquement les enfants. Donc, tout ça, c'est très bien. On a vu qu'il y a eu cette baisse. Mais si on juxtapose le nombre de ces deux sources, donc le regroupement familial et les entrées avant, on voit que il y a un écart grandissant entre les deux sources. Autrement dit, ce qui pourrait un peu décrire la migration des enfants vers la France il y a 30-40 ans, ben aujourd'hui, il y a des écarts un peu importants et on est un peu obligé de chercher dans d'autres sources qui pourraient être ces enfants et quelle est leur situation. Et donc, depuis 2008, une autre source administrative nous renseigne sur d'autres voies d'entrée des enfants, ce sont les visas de long séjour. Donc, c'est une autorisation, un document qui permet de traverser la frontière et, normalement, quand ils vont avoir 18 ans, d'avoir un titre de séjour. Et donc, en marron, tout en bas, vous voyez, c'est le groupe des regroupements familiaux dont on a déjà parlé. Les autres catégories en marron, vert, ben, c'est d'autres catégories de migration familiale. Donc certes, on parle beaucoup de regroupement familial, mais d'autres enfants peuvent venir comme enfants de Français, enfants de conjoints de Français, familles de réfugiés. Et donc, c'est un nombre similaire. Et puis, il y a deux autres catégories. Bon, ce n'est pas les meilleures couleurs, hein, j'espère que vous voyez. Donc, le jaune qui va un peu comme ça, ce sont les adoptés internationaux. C'est quelques centaines de personnes par an, ça a beaucoup baissé leur nombre. Et puis, une autre catégorie, ce sont les mineurs scolarisés, dont le nombre ne cesse de croître. Donc, aujourd'hui, ils sont 5 000 enfants, donc autant que regroupement familial. Et voilà, ce n'est pas une catégorie très bien connue ou identifiée. Je n'ai pas trouvé beaucoup de travaux sur le sujet. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont une visa de durée limitée. Ils viennent pour un an. Et ils ne sont pas groupés avec les migrants familiaux parce qu'en en fait, une des conditions du visa, c'est qu'ils viennent seuls. Il n'y a pas d'enfants qui viennent. Oh, pardon, il n'y a pas de parents qui viennent avec eux. Et donc, ils sont groupés avec les étudiants. Mais bref. Même quand on ajoute ces nouvelles voies d'entrée, on voit que l'écart reste quand même assez important. Et il est important de dire que voilà, certaines de ces catégories de migrants familiaux, on n'est pas, il n'y a pas uniquement des mineurs. Hein. Par exemple, parmi les enfants qui viennent dans le cadre du regroupement familial, certains d'entre eux ont déjà 18 ans ou plus. Donc, il y a, voilà, on n'est pas exactement sur les mêmes champs. Il faut aussi savoir que, même en termes de nationalité, même si les adoptés internationaux, ils ont besoin d'un visa à ce moment-là, plus tard, quand ils vont, voilà, quand la procédure d'adoption est terminée, ils ont la nationalité française. Donc, il est possible que, plus tard dans le recensement, ben, ils ne seront pas du tout identifiés comme des étrangers ou des immigrés, parce qu'ils vont déjà être français. Et dernière différence, par exemple, on avait parlé de la durée de résidence qui définit un peu un migrant. Or, les mineurs scolarisés, normalement, ils sont censés venir pour un an ou moins. Donc, il y a vraiment plein de choses qui font que les champs des deux sources ne sont pas comparables et que l'écart est probablement supérieur. Et puis, je vais parler du dernier groupe assez rapidement. Et auxquels voilà, on a peut-être plus en tête, ben, ce sont les demandeurs d'asile. Et donc, depuis 2003, avant, il n'y avait pas de statistiques sur les mineurs qui font une demande d'asile en France, mais depuis 2003, ça existe, l'OFPRA produit ces données. Et donc, on voit que leur nombre a beaucoup augmenté dans les 15 dernières années, et ça représente plus de 20 000 personnes en 2008 et 2018. Beaucoup, la grande majorité, plus de 90% de ces mineurs, sont des mineurs accompagnants des parents, donc ils ne viennent pas seuls. Et ce sont les isolés qui représentent quelques centaines de migrants, de mineurs par an, dont on a parlé un peu plus parce que à cause de leur situation familiale et de leurs besoins spécifiques. Et voilà. Et donc, même si on juxtapose, donc on voit que si on ajoute les mineurs demandeurs d'asile à cette figure, on voit quelque chose d'un peu plus cohérent. Et donc, une grande partie de l'accroissement du nombre d'entrées des enfants des pays tiers, mais c'est vraiment dû à l'asile. On voit aussi que c'est vraiment pas un fait nouveau depuis 2015, mais c'est vraiment une constante depuis les années 2000, voire avant. Et quand on sait que le taux de reconnaissance de statut, que ce soit pour les mineurs venus avec leur famille ou les mineurs isolés, ils sont très faibles, ben les conséquences de cette évolution sont vraiment très importantes, parce qu'au moment de l'admission au séjour, il y a vraiment des différences de droit selon que tu sois entré avec un visa de long séjour ou pas. Et donc, pour l'accès au séjour va être beaucoup plus compliqué pour les mineurs qui viennent faire une demande d'asile. Mais au-delà de ces problèmes un peu de substance, je vais attirer une fois de plus votre attention sur les limites des statistiques existantes. J'ai déjà parlé du fait que ce n'est pas tout à fait des champs comparables, des groupes comparables. Mais aussi, je pense que c'est important de dire que, par exemple, pour présenter ça en 20 minutes, j'ai vraiment dû compiler des informations dans plein de rapports auprès de plein d'administrations. Autrement dit, on n'a pas du tout une vue d'ensemble sur les situations des enfants migrants en France aujourd'hui. C'était un peu le cas de tous les migrants, mais la situation, comme je disais, ça s'est beaucoup améliorée. Mais pour les enfants, c'est vraiment pas encore le cas. Et je pense qu'au moment où on parle de la disponibilité, de l'accessibilité de données aux utilisateurs, qu'il s'agit des chercheurs ou de la société civile, c'est vraiment important d'améliorer aussi ces choses-là. Et donc, pour résumer, vraiment, ce que j'ai essayé de montrer très rapidement, c'est que les enfants, les mineurs, ils constituent une composante importante des migrations aujourd'hui, même si parfois on a vraiment du mal à les identifier et les analyser à partir des statistiques existantes. Aujourd'hui, si on regarde les volumes des entrées des enfants migrants des pays tiers vers la France, ben, on est à des volumes similaires, voire supérieurs à ceux des années 70 et 80. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas parce qu'on a des statistiques un peu éparpillées. Après, je pense que les personnes, et on a déjà parlé avec plein de personnes sur ça, les personnes qui travaillent avec ces publics dans les écoles ou dans d'autres administrations, ils le voient. Mais voilà, dans les statistiques officielles, ça ne se reflète plus trop. Et donc là, pour conclure, je pense qu'il y a des raisons objectives qui expliquent pourquoi la production des statistiques sur les enfants migrants est plus complexe. Donc, par exemple, ils n'ont pas un titre de séjour. Il y a d'autres lois, normes législatives pour ce groupe. Donc, ils ont aussi d'autres parcours administratifs quand ils viennent en France. Donc, il y a des raisons. Mais c'est une question de volonté politique aussi, parce que à un moment donné, il y a eu la prison la conscience du fait que les expériences des enfants d'immigrés, des descendants d'immigrés, on a vraiment besoin de savoir plus ce qui se passe avec ce groupe. Et donc, à partir des années 2000, vraiment, dans toutes les enquêtes, dans toutes les sources statistiques, ce groupe a été identifié et c'est une catégorie statistique bien établie aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose avec les enfants migrants qu'il faudrait définir, etc., etc. Et donc, je vais terminer c'est une série d'articles qui sont sortis cet été dans The Guardian. Et cette photo vient d'une série de reportages faits sur les Dreamers en Europe. Donc, c'est les rêveurs. Donc, vous savez, c'est cette catégorie des enfants migrants qui sont venus aux États-Unis avec leur famille et qui n'ont vraiment aucune possibilité d'avoir un titre de séjour. Et ce qui se passe avec eux, c'est que souvent, ils ne savaient même pas qu'ils étaient entrés illégalement parce qu'ils sont venus très jeunes avec leurs parents. Et donc, c'est vrai qu'en France et puis en Europe en général, la situation n'est pas aussi contrastée avec, d'une part, un accès direct à la nationalité si l'enfant est né en Europe. Ça n'existe pas. Si on est de parents étrangers, et si tu es né d'ailleurs, il n'y a pas d'accès au séjour. Il y a des voies d'entrée pour les enfants, par exemple, qui arrivent avant un certain âge en France. Donc certes, la situation elle n'est pas aussi contrastée qu'aux États-Unis, mais il faut savoir que ces problèmes existent, et il est nécessaire d'avoir des statistiques qui nous permettent de les identifier et de les voir, sinon voilà, on ferme un peu les yeux là-dessus. Et je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup, Tatiana. Je ne vais pas beaucoup prendre de temps parce qu'on est déjà un petit peu en retard et que vous avez sans doute toutes et tous faim. Mais je voudrais juste rapidement, mais sincèrement, remercier au nom de l'Unité Migration Internationale et Minorité les organisatrices et les organisateurs de cette journée. Donc à l'INED, Marine Haddad, Séverine Chauvel, Jean-Luc Primon, et au musée, Marianne Amar et ses équipes. Donc ça se passe très bien jusqu'à présent et c'est super. Merci beaucoup. Donc pour juste lancer la discussion sur ta présentation, Tatiana, je me demande, je vais te poser un certain nombre de questions comme ça, et je me demande si au-delà des aspects les plus techniques, les plus statistiques, une des manières de résumer ta présentation, c'est pas que en fait, les politiques migratoires restrictives, notamment envers le regroupement familial, ont pour conséquence non pas une forte baisse des flux migratoires, mais simplement une précarisation accrue, notamment en termes de statut légal et administratif, des populations migrantes qui viennent quand même. Et donc simplement, on fait la vie plus dure aux migrants qui viennent quand même. Parce qu'on voit quand même, enfin, je pense que c'est une manière de lire les chiffres que tu nous as présentés, tu me diras si tu es d'accord ou pas, et si c'est le cas, on peut sans doute faire des ponts et des généralisations à d'autres populations migrantes que celles des enfants. Je voulais aussi savoir si tu avais des éléments, au-delà de ce que tu nous as présenté, sur l'impact de la situation de précarité administrative ou, disons, l'impact du statut légal d'entrée et de séjour des enfants sur leur trajectoire biographique, à la fois dans le terme dans le secteur de leur développement, de leur scolarité, de leur santé. Très probablement qu'il n'y a pas de... Enfin, je sais qu'il n'y a pas de données là-dessus dans les sources que tu as directement citées, mais... Je pense à des données d'enquête comme ELIPA, ELF, les panels de l'ADEP, source que tu connais aussi très bien. Un peu en retour, donc la question c'est est-ce que ça a des conséquences négatives, les statuts légaux précaires? L'autre question c'est en fait qui sont les personnes, qui sont les enfants, qui sont les familles dont les membres ont des statuts légaux d'entrée et de séjour précaires, c'est-à-dire on peut penser que ça ne touche pas aléatoirement toutes les populations migrantes et que probablement ça touche déjà les populations et les familles les plus démunies, avec les moindres ressources, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles. Et donc est-ce qu'on ne peut pas dire que ce serait un prolongement de ta présentation que... la précarisation de l'entrée et du séjour a un peu un effet multiplicateur des inégalités parce qu'elle touche déjà les plus démunis et a des conséquences négatives sur un certain nombre d'aspects de leur vie. Ça, c'est mon premier plus grand groupe de questions. Je vais peut-être juste te poser une dernière question pour pouvoir te laisser répondre et laisser la parole à la salle. C'est que tu parles assez peu de genre. Et en regardant ces statistiques, je me demandais, est-ce qu'il y a des différences marquées entre, selon le genre des enfants, donc c'est-à-dire est-ce que si c'est des garçons ou des filles, il y a des différences dans l'accès au séjour, le statut légal, etc. Et aussi le genre des parents, soit du parent qui est déjà en France, soit du parent accompagnant. Est-ce qu'il y a des interactions entre le genre des parents, le genre des enfants, etc. Voilà, je vais peut-être te laisser répondre très rapidement et puis ensuite on prendra des questions.
Merci pour ces questions. Donc je vais essayer de répondre rapidement au premier point des politiques migratoires. Est-ce que c'est pas... S'il y a des politiques restrictives, il n'y a pas de baisse des flux, mais finalement, précarisation de séjour. Donc oui, c'est un peu ce qui se passe, parce que si on regarde, je n'ai pas pu le présenter ici, mais si on regarde les stocks de migrants de moins de 18 ans à tous les recensements, donc en effet, on voit qu'il y a une légère baisse dans les années 80 et 90, mais depuis les années 2000, il y a de plus en plus. Donc les recensements, même si je les ai un peu critiqués au début, elles nous permettent quand même de voir des choses et qu'il y a des enfants qui viennent. Donc oui, c'est le cas. Et en fait, ce que j'ai raconté ici, ça a été déjà montré pour les migrants dans leur ensemble, donc principalement les migrants adultes. Donc ici, je pense que ce que j'essaie de faire, c'est que ces mêmes politiques, elles ont aussi un impact sur les enfants, et il y a un peu les mêmes conséquences, même si, donc je le dis un peu à la fin, il y aura un peu des voies d'échapper à ce statut précaire, parce qu'il y a des catégories d'admission spécifiques pour les enfants et les jeunes adultes en France. Elles ne vont pas concerner tout le monde, mais un peu. Et donc l'impact du statut légal, donc certes, il y a des conséquences négatives, mais à ma connaissance, il y a quelques travaux sur ça, mais c'est plutôt, voilà, il y en a assez peu. Je pense que c'est vraiment, par exemple, quelque chose de très développé aux États-Unis, parce que là-bas, la population des Dreamers, elle est vraiment beaucoup plus importante. Ils ont vraiment beaucoup plus de visibilité. Ce qui est vraiment important, c'est que si dans les années 90, je pense que ce sujet a été beaucoup plus présent, parce que j'ai trouvé plusieurs rapports et ouvrages sur les jeunes et leurs problèmes sur le marché de l'emploi, dans l'éducation, etc. Mais c'était plus sur voilà, les jeunes qui sont arrivés dans les années 80, 90, au moment où commençaient ces restrictions. Mais sûrement, avec les nouvelles sources, on pourra vraiment voir des choses. La question du genre est vraiment intéressante, mais malheureusement, beaucoup de fois, ces statistiques qui sont des statistiques administratives, elles ne vont pas être désagrégées par âge et par sexe, donc on ne va pas pouvoir voir des choses. Parfois, on voit des choses, par exemple... pour le regroupement familial, il y avait la distribution par âge des filles et des garçons, et donc on voyait quelque chose qui était parfois décrit dans la littérature aussi, c'est que les filles, donc en fait il y avait à peu près le même nombre de filles et de garçons qui venaient à des âges plus jeunes, mais lorsqu'on s'approchait de la majorité, il y avait plus de garçons. Donc en fait les pères faisaient parfois venir leurs fils pour peut-être travailler avec eux, etc., sans faire venir toute la famille derrière. Mais après, pour les autres questions, ben, on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas de statistiques disponibles, mais dans certains, voilà, des enquêtes que tu cites, je pense que ça sera possible avec l'enquête TO2, l'enquête ELIPA2. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une, deux, trois questions dans la salle? On ne va sans doute pas avoir le temps d'en prendre beaucoup plus. Tout le monde a déjà trop faim.
Oui, c'est moins une question qu'une remarque, Jean-Luc Privan, je suis parti organisateur de la journée, mais je trouve ces données particulièrement intéressantes, et je voudrais revenir sur ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire sur... en grande partie l'invisibilisation des enfants, en fait, et des mineurs dans la statistique publique française. Je crois que c'est une question que cette journée peut-être soulever. Pour avoir travaillé sur ces questions et pour y travailler encore, c'est vrai que bon, ta thèse, notamment, est une référence aujourd'hui, et qu'il est très difficile de collecter les sources, en fait, de les réunir et de produire des graphiques et des séries un peu longues, je dirais, sur les flux des mineurs qui sont entrés sur le territoire, qui séjournent. Et je crois vraiment qu'il faut s'en préoccuper, parce que c'est un problème, c'est dans le débat public. Voilà. Et en fait, on manque véritablement de données pour pouvoir discuter ces questions-là, de manière démocratique.
Je ne peux dire que je suis d'accord avec toi. Et donc, mais je pense que c'est un peu toute la journée qui contribue à ça, parce que finalement, je pense qu'on parle tous un peu de la même chose, que les politiques, les procédures, la disponibilité des données, que ce soit dans les archives ou dans les bibliothèques, voilà, ça demande beaucoup de temps de travailler sur ces, sur ces documents, de mettre tout ça ensemble, de faire parler les chiffres. Parfois, on en parlait un peu avant avec quelqu'un au café aussi, c'est pas vraiment valorisé parfois, c'est vraiment difficile de valoriser ce travail, d'expliquer un peu tous les problèmes qui viennent avec, parce qu'on veut des réponses, on veut ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, par exemple, on voit que l'arrivée des enfants demandeurs d'asile qui ont voilà, les statuts un peu les plus précaires, qui aujourd'hui, voilà, tout ce qui est les problèmes de logement, notamment en Île-de-France, ben, ça ne commence pas aujourd'hui, ce n'est pas en 2015, c'est quelque chose qui existe depuis beaucoup plus de temps. Et voilà, il faut regarder ça un peu ouais, avec les temps longs.
Oui, je voulais savoir si vous avez pu exploiter, si c'est exploitable, les statistiques publiées, me semble-t-il, chaque année par le ministère de l'Intérieur sur les titres de séjour délivrés aux étrangers. Est-ce que vous avez pu en tirer quelque chose par rapport aux mineurs ?
Merci beaucoup pour cette question. Comme cette présentation était assez courte, j'aurais pu en parler, mais voilà, j'ai dû laisser ça de côté. Mais ce que j'ai surtout parlé de ce qui se passe avant 18 ans. Et donc, c'est vrai qu'au moment où ils vont arriver à 18 ans, il y a la question, est-ce qu'ils vont avoir un titre de séjour ou pas ? Une spécificité de la France, et je pense que c'est vraiment important d'en parler, c'est que les mineurs étrangers n'ont pas de titre de séjour. Dans beaucoup, parce que la majorité des pays en Europe, ils ont un titre de séjour. Et donc, par exemple, dans les données d'Eurostat, quand on va utiliser les données des titres de séjour, on a le groupe de 0,4 ans, 5,9 ans. Donc, on peut voir pour quel motif ils reçoivent leur titre de séjour. En France, ce n'est pas le cas. Et après, en fait, on peut identifier les catégories que j'ai identifiées ici, les migrants familiaux qui reçoivent un titre de séjour, mais tous ceux qui ne rentrent pas ces catégories bien claires, par exemple, les mineurs qui viennent demander l'asile avec leurs parents et qui vont être déboutés et qui vont pas... Donc, ils vont devoir trouver une autre manière d'avoir le titre de séjour, par exemple, en tant que travailleur, ou en tant que mineur venu en France avant l'âge de 13 ans, ou en tant que étudiant. Parfois, on va pas pouvoir les identifier. Ils sont là-dedans, mais on peut pas vraiment les identifier. Ce sera un peu possible avec la nouvelle enquête. Par exemple, la Direction générale des étrangers en France a fait une enquête auprès des personnes qui reçoivent un titre de séjour en France. Et on a ici leur parcours migratoire, leur parcours familial. Et donc là, on va pouvoir identifier les mineurs et voir un peu dans quelles conditions ils accèdent au titre de séjour et avoir un peu une vision un peu plus globale là-dessus. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour encore une question ? Dernière. C'est au premier rang.
Alors, merci pour cette communication très intéressante. Moi, j'avais une question sur... Je vais partir de là. L'écart qu'on voit toujours entre les chiffres de l'INSEE sur les arrivées, et puis ensuite, vous avez bien montré comment vous essayez de repérer c'est qui ces enfants, et à la fin, il en manque toujours. Et du coup, je me demandais, ces enfants-là qui manquent, est-ce que ce n'est pas aussi ceux qui repartent, et qui repartent assez rapidement, puisque si je comprends bien, on part d'un flux d'arrivées, mais en fait, on n'a pas toutes les autres sources, les saisissent en train d'essayer de s'installer, plus ou moins, quoi. Et voilà, ce que vous avez donné, en fait, sur ceux qui repartent, c'est-à-dire ceux qui, y compris des demandeurs d'asile, mais j'imagine que ça peut être aussi plein de catégories qui, finalement, arrivent en France et repartent au bout de quelques semaines ou quelques mois, pour toutes sortes de raisons, ailleurs, ou qui rentrent chez eux. Parce que ça aussi, même sur les séries longues, en fait, c'est hyper important. Là, on voit des évolutions des entrées, mais on n'a pas vraiment d'idée de... On a ceux qui sont là à tenter et on a les entrées, mais est-ce qu'on arrive à vraiment percevoir les flux de ceux qui repartent et où ils repartent ? Est-ce qu'ils rentrent chez eux ou est-ce qu'ils partent ailleurs ?
Merci pour cette question qui est vraiment une question très intéressante et aussi pour des questions de temps. J'ai pas pu parler des retours ou des départs vers d'autres pays. Donc, certainement, ça existe. Je pense que ça contribue pas trop à l'écart que j'ai présenté ici parce que dans le recensement, on a les personnes qui sont en France pour une durée d'un an ou plus, normalement. Donc, ils devraient être là. Et les personnes qui viennent avec un visa, normalement, ils sont là pour rester un petit moment.